France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Aux Jeux Olympiques, selon Pierre de Coubertin, qui d'ailleurs avait pompé sa célèbre formule sur la copie de l'évêque de Pennsylvanie, Ethelbert Talbot, l'important est de participer. Mais pour les athlètes de haut niveau, pour le Gotha de l'athlétisme notamment, l'important est bien de gagner. Pour Guy Dru, par exemple, quand il se présentait au départ de la finale du 110 mètres haies aux Jeux de Montréal en 1976, après avoir fini deuxième de l'épreuve 4 ans plus tôt à Munich, une chose et une seule importait, gagner. Comme il le racontait dans le deuxième volet du numéro de La Légende du Sport que lui consacraient Joël Spindel et Denis Soula sur Radio Bleu en l'an 2000, la préparation rigoureuse, exigeante, à laquelle il s'était astreint durant 4 années, avant cette finale, n'avait pour seul but que celui de devenir champion olympique. Mais le jour J, il arrive parfois que même les champions doutent. Comme on va l'entendre, après une année jalonnée de performances quelconques et surtout une demi-finale inquiétante, ce fut ce qui arriva à Guy Dru le 28 juillet 1976, à quelques heures de la finale. Mais c'est sans doute là le propre de très grands champions, de ne jamais laisser au doute le temps de s'installer quand il pointe son nez et au bout de la ligne droite, 13 secondes et 30 centièmes après le coup de pistolet du starter, c'était bien, comme on le sait, la médaille d'or qui l'attendait. La légende du sport, Guy Dru, seconde partie, Guy Dru à Montréal, Jeux Olympiques de 1976, une émission diffusée sur Radio Bleu le 11 juin 2000.
Premier et champion olympique, first Olympic champion, Guy Dru, France.
Montréal, juillet 1976. Il y a quelques minutes, Guy Dru a remporté le 110 mètres haies des Jeux Olympiques. En 13 secondes et 3 dixièmes, il est devenu le patron, le meilleur dans sa discipline. Guy Dru l'affirme, le stade d'athlétisme était l'endroit où il se sentait le mieux, au point de parfois regretter d'avoir choisi le 110 mètres haies, où tout se règle en quelques secondes, au lieu du saut à la perche, où il excellait, un concours qui mobilise ses participants un après-midi entier.
La victoire de Guy Dru à Montréal vient de loin. 4 ans plus tôt, à Munich, il s'était classé deuxième de la même finale olympique. 4 ans pour s'imposer, 4 ans d'entraînement, animé d'une rage de vaincre peu commune dans l'athlétisme français. Retour en arrière, 1 an avant les Jeux.
22 août 1975 à Berlin, record du monde manuel en 13 secondes, c'est quand même pas n'importe quoi. Hein. Recordman du monde athlétisme, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau, parce qu'on est tout seul avec ses jambes, son cœur, sa tête. Et comment c'était ce jour-là? C'était électrique, paraît-il.
C'était carrément électrique, parce que juste après la course, il y a eu un orage qui a éclaté, donc il y a eu à voir l'atmosphère un peu particulière, et puis une pression qui a dû être favorable justement à l'établissement de records, certainement un peu comme ce qui s'était passé avec Bimon à Mexico. Ben, c'était une course en fait où rien ne s'est passé, quoi. C'était à vos marques, préparez, puis après ça a été d'une fluidité. Puis à la fin de la course, bon, j'avais gagné, je n'avais pas vraiment l'impression d'être allé très très vite, mais je sais que j'avais bien couru, j'avais pas fait d'erreur. Et j'ai levé les yeux vers le chronométrage électronique et il y avait écrit 12-9. Alors je me suis dit, tiens, une fois de plus, ils se sont plantés. Et puis, c'était pas ça du tout, quoi. Il y avait 2 chronos à 13 et 1 à 12-9, donc ils m'ont donné 13 secondes. Ah, bien évidemment, bon, aujourd'hui, je me dis, si j'avais été le premier à pouvoir vraiment franchir le mur des 13, bon, ça aurait été simple. Mais déjà, faire 13, je ne vais pas me plaindre, quoi. Donc, c'est vrai que c'était une belle compète.
Et qu'est-ce qu'on ressent quand on est recordman du monde en athlétisme, dans une aussi symbolique épreuve?
Moi, j'ai toujours accordé beaucoup plus d'importance à la victoire qu'au record. Je ne peux pas vous dire, on ressent. Moi, j'étais content d'avoir gagné. J'étais content d'être le seul à être les 13 flat, hein, comme disent les Américains. Bon, c'est une satisfaction. Mais c'est un plaisir beaucoup moins intense que la victoire à proprement parler. Et beaucoup d'athlètes pensent la même chose, je crois. Je crois que ça a été, et je crois même d'ailleurs c'est cette année-là où j'avais été classé 4e athlète mondial par Sports Illustrated. Tout s'annonçait pour le mieux pour l'année olympique.
Vous avez dit, Guidru, le record, le public, c'est quelque chose de chaud qu'on ne peut pas expliquer. Maintenant, vous pouvez l'expliquer ?
Non, pas beaucoup plus. C'est le, je sais pas, c'est le besoin de s'exprimer, le besoin de communion. Je crois que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a un respect, une estime réciproque entre les gens du spectacle et les gens du sport. Le sport qui est en fait le sport de haut niveau, qui est un beau spectacle. Et le stade, c'est la plus grande scène du monde. Et très souvent, on est là, jeunes sportifs, et on regarde les chanteurs, les chanteuses, les acteurs de cinéma, etc. Et puis bon, ils sont comme les autres, quoi. Ils sont là pour faire rêver. Et puis, ce qu'on sait un peu plus tard, c'est que eux nous regardent avec les mêmes yeux d'envie. Et moi, j'ai des tas d'amis qui me l'ont dit après. Mais attends, nous, ce qu'on fait, mais on est des guignols. Attends, moi, quand tu cours, quand tu sautes, etc., c'est fabuleux, c'est fantastique. Et on se dit, bah zut alors. Et donc, c'est un peu la fabrication d'un rêve. Il y a une vraie communion avec le public. Et moi, je comprends un Johnny Hallyday qui a beaucoup de chance de pouvoir faire encore de la scène. Moi, j'aimerais bien encore pouvoir faire du stade, mais malheureusement, je suis trop vieux. Mais c'est un peu c'est certainement le même état d'esprit, la même motivation. Et on donne toujours le meilleur de soi-même.
Préparation des Jeux de Montréal, vous allez vous confronter aux Américains lors d'une tournée là-bas. Comment ça va se passer ?
Ça va se passer, ça a été pratiquement la répétition de ce qui allait se passer plus tard. C'est-à-dire que je suis arrivé, on était parti pour la saison hivernale donc aux États-Unis. On avait commencé par les Milhouse Games à New York et je m'étais fait mais ramasser correctement. Et puis ensuite, je me traînais, j'étais pas bien, j'étais lourd. On a fait Louisville, Los Angeles, Toronto, et on est revenu à New York. Si vous voulez, c'était une répétition, parce que autant j'avais été mal dans toute la tournée, toutes les courses, et on terminait par les championnats US. Et j'ai gagné la course des championnats US. Tout simplement parce que c'était celle-là qu'il fallait gagner.
Mais tout de suite, peut-être cette définition d'un grand champion. Perdre toutes les courses mineures pour remporter la plus importante.
27 février 1976, un document INA.
Eh bien, c'est précisément ce que vient de réaliser aux États-Unis Guy Dru. Après 4 défaites consécutives, il est devenu hier soir champion des États-Unis. Écoutez-le plutôt au micro de notre envoyé spécial à New York, Paul Amar.
C'était vraiment la course qu'il fallait gagner. J'avais gagné qu'une fois, j'avais 6 courses exactement aux États-Unis, mais j'avais perdu 4 fois face à des athlètes, surtout Tom Hill, qui m'avait battu 4 fois auparavant, et j'avais perdu aussi avec contre Davenport, comme Danny Smith. Et la course d'aujourd'hui est celle qu'il fallait gagner. Et je dois dire que il a fallu que j'aille vraiment chercher très très loin, des ressources nerveuses et tout, quoi, pour pouvoir m'affirmer aujourd'hui.
Me demandez pas rien d'autre, je peux rien vous dire. Il y avait une course qu'il fallait gagner, c'était celle-là. Et en été, il y avait une course qu'il fallait gagner, c'était la finale des Jeux, c'est celle-là que j'ai gagnée, que j'ai réussi.
Vous parliez tout à l'heure de l'ambiance électrique de Berlin, l'ambiance électrique d'une finale des Jeux, mais le Madison Square Garden aussi, ça devait être une ambiance électrique, c'est peut-être ça qu'il vous faut ?
J'en sais rien, si c'est l'ambiance ou si c'est moi, non, je crois que j'ai toujours eu un trac positif. Il y a deux sortes de tracks, il y en a qui subliment et d'autres qui diminuent, qui annihilent. Et moi, c'était plutôt, je me sentais sublimé par l'importance de l'événement. Et là, au championnat US, il y avait les Jeux après, un peu de temps après. Donc je me suis dit, si jamais je prends encore une défaite là, ça va pas être facile pour l'avenir. Donc j'ai puisé au fond de mes ressources, et suffisamment pour remporter cette course. Et pour les Jeux, ça a été pareil. En demi-finale, mauvais. Et puis en finale, bon, la course qu'il y a eu, c'était la course qu'il fallait faire.
Guidry, vous preniez un risque quand même, comme vous le dites, parce que vous allez au Madison Square Garden rencontrer les Américains sur leur distance, le 60 yards est, qui est une distance plus courte, qui leur convient parfaitement. Confronter des Américains en athlétisme, c'est ce qu'il y a de plus dur, hein, chez eux. Psychologiquement, c'était important de les battre sur place.
Oui, puis ils venaient pas chez moi, il fallait bien que j'aille chez eux quand même, parce que je savais bien que c'est là qu'était le danger. Puis de temps en temps, ça me faisait plaisir d'aller un petit peu, j'aimais bien aller moi aux États-Unis. Et puis enfin et surtout, c'est que on continuait des expériences qui avaient commencé l'année précédente. En 75, j'avais fait aussi une tournée aux États-Unis pour voir comment physiologiquement je m'adaptais au décalage horaire. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Il faut mettre toutes les chances de son côté et on peut très bien vous aller de Oslo à Johannesburg, il n'y a pas de problème. Vous passez de moins 10 à plus 30, il n'y a pas de problème. Un décalage de 5-6 heures, là il y a un problème. Donc il faut se donner le maximum de chances de pouvoir résoudre ces problèmes-là qui vous sont posés.
Une rencontre importante que vous faites en termes d'amitié, peut-être avec Tom Hill aux États-Unis.
Tom Hill, ça faisait longtemps que je le connaissais. La première fois que j'avais couru avec lui, c'était à Cologne, dans les années 68 ou 69. Et là, il y avait une anecdote un peu amusante, c'est que on s'était donc entraîné sous la. Il y avait une bulle, la bulle de Columbia University. Et puis, entre-temps, quand on était ailleurs, nous, quand on était sur la côte californienne, il y a un blizzard qui a eu la mauvaise idée à New York de balayer la bulle. Donc, on savait plus où s'entraîner. Et Tom, qui était officier dans l'armée américaine, dans l'armée, nous avait proposé gentiment de venir à West Point. Et donc, j'ai vécu une semaine à West Point. Et ça, c'était quand même un souvenir assez, assez exceptionnel.
Guidry, donc, 75, record du monde manuel en 13 secondes. Vous gagnez les championnats US devant les Américains. Montréal approche, 1976. Vous êtes le grand favori. Comment on gère une telle situation?
On essaye de la gérer au mieux, quoi. Surtout que, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, j'ai toujours eu mon caractère et surtout pas ma langue dans ma poche. Donc, comme je voulais gagner, je voyais pas pourquoi, je ne disais pas à l'époque, je vais gagner, puisque j'en étais intimement persuadé. Bon, cela dit, entre ce qu'on pense et ce qu'on dit et le comportement, bon, c'est pas, et je peux vous dire que la finale olympique, j'ai dû la courir, je sais pas moi, des milliers de fois. J'ai tout fait, quoi. Je suis tombé, je suis pas tombé, j'ai gagné, j'ai pas gagné, j'étais pas au jeu. Ça repasse sans arrêt. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait la préparation qui continue, avoir toujours confiance en soi, et puis avoir la capacité dans les quelques minutes qui précèdent de tout oublier, quoi. C'est-à-dire qu'on ne pense plus à rien d'autre que à l'objectif final. Et donc toutes les les facteurs qui viennent un petit peu diminuer les chances de victoire, ceux-là, il faut les oublier.
Comment se sont passés vos premiers jours à Montréal avant les épreuves?
Je suis arrivé le 13 juillet 1976 par Concorde. Et puis, dans un premier temps, je suis allé à l'extérieur du village pour être un peu tranquille. Et j'ai fait ça surtout parce qu'en arrivant, on avait eu une réception à l'ambassade de France. Et maintenant, je sais, les pauvres, c'est pas... c'est normal. Le nombre de personnes qui m'ont tapé dans le dos, qui m'ont serré la main en disant « on compte sur vous, on compte sur vous, on compte sur vous, on compte sur vous ». Putain, j'ai dit « si ça continue comme ça, je vais jamais pouvoir tenir, quoi ». Donc, je suis allé chez un ami qui habitait Montréal, un peu à l'extérieur, pour être tranquille. Et puis ensuite, je suis revenu un peu au village. Et puis, les deux ou trois nuits qui précédaient la compétition, Michel Jazzy m'avait prêté une chambre qu'il avait louée juste en face le village, mais que tout le monde ignorait, pour être un peu tranquille, quoi.
Encore lui?
Encore lui, oui, bien sûr. Il est toujours là.
Guidry, juste avant de partir, vous avez eu une conversation intéressante avec Jean-Claude Tilly.
Oui, tout à fait. Comme je connaissais Michel, c'est la mésaventure qu'il avait eue à Tokyo. Donc, il m'avait toujours dit un petit peu ce qu'il fallait éviter de faire. Et j'avais voulu rencontrer Jean-Claude, qui était quand même, sur le plan de la gestion de la victoire, exemplaire. Et pour lui demander également comment il s'était préparé, ce qu'il avait dans la tête, etc., etc. Quoi. Puis un peu puis connaître quand même l'individu.
Ça a été instructif ?
Ah, très instructif, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui. Ça l'est encore aujourd'hui, d'ailleurs.
Cela étant, Pierre Loctin, pour nos représentants, les résultats de la matinée sont relativement satisfaisants.
Eh bien, écoutez, oui, par exemple, en athlétisme, on attendait avec impatience les débuts de Guidru sur 110 mètres haies. Eh bien, le Français s'est qualifié vraiment très facilement.
26 juillet 1976.
D'ailleurs, au micro de Fabrice Valédan, Guidru affirme qu'il n'a pas forcé son talent.
Pas tellement, non. Enfin, j'ai couru, j'ai juste assuré deux ou trois barrières pour, premièrement, pour servir le départ, et puis aussi pour prendre la température. Puis après, j'ai examiné le stade, quoi. J'avais les deux en point de mire.
Guidru, qu'on en trouve très très détendu après sa série, est-ce qu'il en sera de même mercredi matin, avant la demi-finale et avant la finale du soir?
Bon, avant la demi-finale, il y a de grandes chances que je sois très détendu aussi, mais enfin, avant la finale, il ne serait peut-être pas souhaitable que je... Ce n'est peut-être pas souhaitable que je le sois autant, parce qu'il y a quand même une course importante qui va jouer.
Le 28 juillet 1976, finale du 110 mètres haies, Guidru. Vous arrivez au village olympique, racontez-nous cette journée.
J'étais en phase, j'étais donc à l'hôtel d'en face. Je me suis levé tranquillement assez tôt parce qu'on avait deux courses. Il y avait les demi-finales qui étaient vers 15h et puis la finale qui était à peu près à 17h50, je crois. C'était heure locale. Donc, je suis allé prendre un petit déjeuner tranquille. Ensuite, aller faire un dérouillage musculaire, c'est-à-dire que pendant trois quarts d'heure, une heure, j'ai un peu fait tout et n'importe quoi, quoi. C'est-à-dire courir un peu, faire des assouplissements, taper dans une balle qui traînait là, etc. Et puis ensuite, on rentre dans la préparation. Moi, j'ai jamais eu l'habitude de trop manger. Je pouvais pas le jour d'une compète. Bon, j'avais l'œsophage qui se rétractait assez. Et donc, j'avais du mal à engloutir quoi que ce soit. Mais sinon, je discute avec l'un avec l'autre. C'est une vie un peu normale. Jusqu'au moment où on rentre dans sa bulle, quoi. Alors ça pouvait se passer peut-être une heure, deux heures, trois heures avant. Mais moi, j'aimais bien être le plus tranquille possible, c'était sur le terrain d'échauffement. Donc, si la course devait avoir lieu à 15h, il fallait rentrer. On était appelé avant, une demi-heure avant. Donc, ça fait 14h30. J'ai dû me pointer sur le terrain d'échauffement vers midi et demi, ou midi et demi, normalement le quart. Et puis là, on commence, c'est un échauffement progressif qui nous amène à être au mieux de notre forme.
Je crois que nous retrouvons tout de suite en ligne Christian Binner à Montréal.
28 juillet, demi-finale du 110 mètres haies.
Oui, puisque Guidru est maintenant en compagnie de Fabrice Balédan.
Non, parce que je disais tout à l'heure, je suis nettement moins rapide que par exemple des garçons comme Tossier ou Cabanas. Et je savais qu'à gauche, j'ai vu Munkel revenir un moment, il a dû faire une petite remontée. Et puis après, je me suis dit, allez, enfin vraiment, je me suis dit, la merde, quoi, on y va.
Lors de cette demi-finale, Guidru, vous découvrez un nouvel adversaire, si on peut dire, c'est Casagnas, qui arrive à un niveau que vous n'attendiez peut-être pas. Oui. Est-ce qu'on est inquiet quand on découvre si près du but un tel adversaire?
On est inquiet, on est très inquiet. Nouvel adversaire, non, parce que je connaissais tout à fait la valeur de Casagnas, mais ce que j'ignorais encore, c'était que j'allais faire une aussi mauvaise demi-finale. Et je crois que finalement, ça m'a servi, parce que moi, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais pas bien et qu'il y avait donc des choses à améliorer. Et lui, ça lui a donné une suffisance qui lui a été très largement préjudiciable. Donc, à l'issue de la demi-finale, j'ai tout imaginé parce que je pouvais pas imaginer perdre à la régulière. C'était pas possible. C'était un rêve qui s'effondrait. Donc, j'ai commencé à chercher lâchement des excuses, quoi, de faux départ, une chute, une blessure imaginaire, enfin des tas de trucs comme ça. Et puis je suis remonté dans les tribunes et quand j'ai vu tous mes potes qui étaient autour là et qui me regardaient avec des yeux interrogateurs, qui étaient tristes, qui étaient malheureux, qui savaient pas comment le dire, etc., je me suis dit, mais rien que pour eux, t'as pas le droit de te comporter comme ce que tu viens d'imaginer, quoi.
Guidru, champion olympique du 110 mètres haies. Montréal, 28 juillet 1976, à quelques minutes de la finale. Guidru, comment s'est passée votre attente de la finale, entre la demi et la finale?
Bien, parce qu'il n'y avait pas trop longtemps, il y avait deux bonnes heures, donc je vous dis, le temps de remonter dans les tribunes, de regarder un petit peu la tête, la mine déconfite des proches, se dire que bon, là, il fallait maintenant faire un peu mieux que le coup d'avant. Puis j'ai pas traîné, je suis reparti tout de suite sur le stade. Bon, il y avait dans les mobilhomes, là, des endroits qui étaient réservés aux masseurs, aux kinés, etc. Donc, un petit coup sur les de décontraction sur les jambes. Et puis, on est reparti pour l'échauffement pour la finale. Et après, bon, après, on est dans la course complètement.
Vous êtes dans la chambre d'appel avec Davenport, Foster, Casagnas. C'est comment l'ambiance dans ces moments-là?
Moi, je ne sais pas, parce que ça dépend. C'est toujours, chaque course est différente. Mais à Montréal, moi, je ne voyais rien. J'étais moi, point. Il y avait une chose à laquelle j'accordais beaucoup d'importance, c'est qu'il y avait un vieux monsieur que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Dubief, qui était un dirigeant de la Fédération française de l'athlétisme et aussi qui avait un rôle dans la Fédération internationale. Et c'était un type assez extraordinaire. D'ailleurs, il y a une carte de visite qui, à l'époque, avait écrit « paysan » dessus, rien d'autre. Et ce monsieur, c'était un peu le sosie de Charles Vanel, vous voyez. Et avant les Jeux, à chaque grande compétition, il venait, il me regardait, il ne me parlait pas, il me regardait. Un petit clin d'œil de bon, ça va, de l'air de dire, quoi. C'était une interrogation silencieuse. Tout va bien, c'est bien. Bon, bah, parfait, à tout à l'heure. Et ça, c'est pas, vous disiez, bon, vous accrochez, allez, voilà, c'était une habitude. J'avais besoin de voir Dubief à un moment ou un autre. Et je me souviens davantage de sa présence avant de rentrer dans la chambre d'appel que de la tête des autres qui était certainement gris, parce que moi j'étais déjà dans un autre monde. J'étais déjà dans ma finale et c'est là où j'avais commencé à gagner parce que je sais très bien qu'ils me cherchaient du regard et j'avais gagné là, c'est tout, j'avais gagné, c'était fait, c'était comme ça, je peux me demander pas d'expliquer l'inexplicable, c'est comme ça, ceux qui ont vécu ce genre de moment peuvent comprendre, les autres, je suis désolé pour eux quoi, mais c'est il y a des trucs comme ça qu'on vit mais qu'on ne peut pas expliquer.
On a peut-être aussi besoin de se persuader qu'on va gagner.
Je crois qu'il n'y a rien de pire que avant de rentrer dans les starting blocks, c'est-à-dire à même à 5, 6 secondes, 10 secondes, de commencer à se dire, allez, tu vas gagner, c'est toi qui vas gagner, c'est toi qui vas gagner. Il n'y a pas besoin de le dire, puisque c'est vrai. Il n'y a pas besoin de se persuader d'une évidence.
Est-ce qu'on sent, Guidrut, qu'on va jouer toute une vie sur 13 secondes?
Il faut surtout ne pas se dire qu'on va jouer toute une vie sur 13 secondes, parce que là, c'est la meilleure façon de se planter. C'est un peu ce que m'avait dit Jazzy. Michel m'avait dit que, bon, avant Tokyo, il avait l'impression que la Terre entière se sera arrêtée. Et Kili m'a dit l'inverse. Il m'a dit, attends, quel que soit ton résultat, ça n'empêchera pas le lendemain matin le facteur de distribuer ses lettres, les trains de rouler, puis etc. etc. Donc, je crois qu'il faut relativiser par rapport à tout cela et puis remettre tout cela au niveau ludique. Lui accorder l'importance que ça mérite, bien entendu. Mais je parle de ça il y a 25 ans. Aujourd'hui, les motivations sont peut-être différentes parce que le jeu a un peu changé, quoi. Les règles du jeu ont un peu changé. Même si ça reste toujours un jeu, même si ça reste toujours un privilège, bon, ne serait-ce que quand le montant des gains est totalement différent. Nous, moi, en 76, j'ai eu comme préparation olympique, je crois, 2700 francs de l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas combien ça ferait, mais ça doit faire, mettons, à le maximum, entre 50 et 100 000 francs. Quoi. C'est ce qui n'est quand même pas grand-chose, pas cher payé pour une médaille d'or. Surtout que ça a été la seule cette année-là avec l'équipe de France d'hippisme.
Guidry, vous nous dites là, je rentre, je vais gagner. Mais quand vous rentrez sur cette piste ce jour-là, hein, ce jour de juillet, tout le monde est inquiet quand même. Vous avez mal au tendon, vous avez mal au cou, vous avez mal à la cuisse, vous avez mal partout. Comment vous allez nous persuader que vous allez gagner?
Ben, en gagnant. j'ai rien à dire d'autre.
Mais vous n'étiez pas inquiet vous-même?
Non, plus là. Là, j'étais plus inquiet. J'étais inquiet avant. J'étais inquiet juste après les demi-finales. Au moment de quand je suis rentré sur le stade, j'étais plus inquiet. Je savais que j'allais gagner. Je peux pas vous dire le contraire. Ça, c'est un discours qui n'a jamais varié parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Je peux pas vous expliquer pourquoi. C'est comme ça.
Vous allez rencontrer quelqu'un que vous avez déjà vu en Amérique, c'est le starter. C'est quoi cette histoire?
Ah, c'est pas une histoire, c'est vrai. Je vous ai dit tout à l'heure que la tournée hivernale aux États-Unis, ça avait été pratiquement la répétition de ce qui se passerait en 76. Parce que j'étais pas bien, on arrive au Madison Square Garden pour les championnats US. Il y avait deux courses, j'avais pas été mauvais dans la première, en demi-finale. Et en finale, le starter avait un physique tout à fait particulier. Il avait des moustaches surtout fantastiques, des moustaches grises, un peu gominées. C'était la caricature de l'officier des Indes, vous voyez, de l'armée des Indes, des trucs qu'on voit au cinéma. Il aurait été parfait dans le livre de la jungle. Puis bon, paf, quand j'arrive en finale des Jeux Olympiques, je me retrouve avec le même starter. Donc pour moi, c'est un enchaînement de... Il y avait une vraie complicité, quoi. Et bon, j'ai pas voulu le départ, mais il y a les ondes qui passaient, ça j'en suis sûr.
Ça aide, ce genre de petits détails?
Oui, bien sûr. Ceux qui disent que ce sont des bêtises, c'est qu'ils n'ont jamais connu ce genre de situation. Et puis, je vous dis, on se raccroche, on cherche un visage, on cherche une présence. Et là, le fait de voir ce monsieur qui paraissait vraiment très très sympa, réconfortant, le fait de le voir là et de l'associer immédiatement à un moment qui avait été un moment de victoire 6 mois avant, ça me mettait dans de bonnes dispositions. Il n'y a pas eu d'ondes négatives, quoi. Les ondes étaient positives.
C'était donc hier soir vers 23h50. Attention au départ.
Guidru est à la ligne numéro 5, à la ligne numéro 6, Foster, à la ligne numéro 7, Casagnas, et à la ligne numéro 8, Koulibiakine, le soviétique. À vos marques, prêts? Parfait.
Je prends un très bon départ pour moi.
C'est très bien parti pour Guidru qui passe à la première en tête. Attention, les deux Américains, Owens en particulier, est devant Guidru.
Pas le meilleur de la course parce qu'il y a Owens qui était un excellent partant qui part un peu devant, mais je le savais très bien, donc je m'affole pas. Sur la cinquième, je sais que je suis largement en tête. J'ai l'impression de sourire parce que c'est une satisfaction personnelle. Je me dis, ça va. Et puis ensuite, à la dixième, je vois qu'il y a Casanas qui revient. Et alors là, je jette tout ce que j'ai dans le coffre, quoi, pour me jeter sur le fil.
Guidru est champion olympique! Guidru a tenu son pari! Guidru est champion olympique du 110 mètres!
Et c'est là où on voit qu'il n'y a pas de hasard dans une victoire. Et ça, c'est grâce à Picmal. Je travaillais à l'entraînement, mon cassé sur le fil. Les distances sont toujours les mêmes, donc on retombe toujours à 10 ou 20 cm près sur le même appui. Et donc, j'avais travaillé mon cassé sur cet appui-là. Donc là aussi, j'ai gagné peut-être 10 ou 20 cm. Et c'est ça, il n'y a pas de hasard.
Mais ce sourire sur la cinquième haie, on a le temps d'apprécier cet instant si furtif?
Ah oui, oui. Oui, c'est court et c'est long, quoi. Vous dites 13 secondes, on n'a pas le temps de se retourner, oh que si. On a le temps de penser, on a le temps de chacuer et décortiquer. C'est très très long, c'est très très long, 13 secondes.
C'est la cérémonie protocolaire du 110 mètres haie avec Guidru qui vient vers le podium, alors que le deuxième sera le Cubain Casanas. Et le troisième, l'Américain
Willie Davenport.
L'Américain Willie Davenport qui termine donc troisième. Et bien vous voyez, c'est une grosse surprise finalement de ne pas trouver dans ce tiercé Charles Foster, l'Américain. Personnellement, nous l'avions plus ou moins annoncé ce matin. Nous voyons Guidru, c'était à la fois un pronostic sentimental et un pronostic raisonnable. Guidru donc qui est champion, le Cubain Casanas, le voyons bien pour notre part deuxième. Et Willie Davenport, le vieux Davenport en tout cas. Willie Davenport, écoutez maintenant. Voilà, vous entendez l'ovation, Guidru est sur le podium, il tourne sur le podium, il est en train de saluer la foule, alors que c'est M. Maurice Herzog qui va lui remettre la médaille. Maurice Herzog, ancien ministre des Sports en France. Voilà, la médaille d'or, elle vient de la passer autour du cou de Guidru. Maurice Herzog qui appartient au Comité international olympique, Guidru dans son survêtement bleu, les deux mains sur les hanches maintenant, qui trône sur la plus haute marche du podium. Guidru qui a réalisé un temps de 13 secondes, 30 centièmes, deuxième, Alejandro Casanas, le Cubain, que tout le monde voyait comme un favori après les séries et les demi-finales, eh bien, on avait peut-être un petit peu oublié Guidru. Finalement, c'était une bonne chose que Guidru n'ait pas cette position de favori au moment de prendre le départ de la finale. Les deux coureurs se serrent la main maintenant sur le podium. Et maintenant, on va monter dans son beau survêtement rouge des États-Unis. Willie Davenport, que Guidru applaudit. Davenport, champion olympique à Mexico, vous vous rendez compte, il y a 8 ans. Il était encore là, Davenport, il y a 4 ans à Munich, et il reçoit encore aujourd'hui la médaille de bronze. C'est assez extraordinaire de voir ce coureur de 33 ans durer aussi longtemps. Vraiment un très très grand champion, ce Willy Davenport, qui remporte donc sa deuxième médaille. Alors que maintenant, on va jouer la Marseillaise, nous allons voir le drapeau tricolore monter au plus haut mât du stade olympique pour la première fois ici à Montréal, la Marseillaise. Avec une reprise du refrain qui vous a peut-être paru bizarre si vous l'avez bien entendu en France. Et Guidry, au moment où il y a eu cette reprise dans la Marseillaise, s'est donné une claque pour montrer qu'il y avait une petite rupture de rythme, un couac musical en quelque sorte. Voilà Guidry qui revient maintenant vers les tribunes, qui serre les poings en signe de victoire. Guidry avec sa médaille d'or, donc il a tenu son pari. Guidry, médaillé d'argent à Munich, il avait dit « je serai encore là dans 4 ans, il n'y aura plus Milburn, cette fois ce sera moi le champion olympique ». Paris gagné, Paris tenu pour Guidry, donc champion olympique du 110 mètres haies en 13 secondes, 30 centièmes devant le Cubain Casanas et l'Américain Davenport.
Guidry, entre le junior de Dole qui faisait 14-1 et le champion olympique qui fait 13-3, donc 8 ans après, il n'y a même pas une seconde.
Non, mais quelle seconde? Et aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, quoi, dans l'autre sens. Et...
Mais 8 ans pour une seconde, c'est... ça paraît tellement dérisoire et tellement beau à la fois.
Oui. Bah, c'est-à-dire qu'il faut matérialiser. La seconde, ça fait 9 mètres sur le terrain. Donc, 8 ans pour gagner 9 mètres, c'est déjà un peu plus causant. Mmh. Et sur 110 particulièrement, parce que c'est une course qui est tellement technique entre l'intervalle, la hauteur des haies, qu'il faut un peu tout compenser. C'est pour ça que les progressions sont assez lentes. Et que les records ont du mal aussi à être battus. Parce que moi, je sais qu'encore aujourd'hui, mon meilleur temps électrique, ça a été 13-28. Avec 13-28, il se pourrait tout à fait que je sois encore en finale aux Jeux Olympiques de Sydney. Mm-hmm. Ça tient à la nature du contexte physique de la discipline.
Mais c'est toute la beauté du sport, quoi. C'est se dire, je vais faire du sport d'une manière très, très poussé pour gagner une seconde en 8 ans. Est-ce que ça rend humble, ce genre de choses? Est-ce qu'on y pense?
Non, franchement non. Non, ce qui rend humble, c'est d'avoir été au top et puis de redescendre ensuite au niveau de la mer. Ça rend humble. Dans la progression, c'est pas vraiment le moment le mieux choisi pour respecter justement une certaine simplicité.
Guidry, ce 28 juillet 1976, tout le monde se souvient de votre geste d'étonnement à la fin, vous cherchez un petit peu. C'est la fin de votre première vie, votre vie d'athlète, vous touchez au but suprême. Est-ce que c'est plus un soulagement, cette victoire, plutôt qu'un vrai bonheur?
Ah, ce sont les deux. C'est un soulagement parce qu'on se dit, ça y est, c'est fini, j'aurai moins d'angoisse, je ne vais plus penser à cette course de la façon dont j'ai pensé, etc. Et ensuite, c'est un véritable bonheur parce que c'est un bonheur très, très égoïste, très, très personnel, dans l'immédiat. Après, non. Après, on pense au moment du podium, tout ça. On pense aux autres, on pense à ses amis, on essaye de voir les gens qu'on connaît dans le stade, on s'imagine, on se dit, tiens, là-bas en France, comment ils sont, dans tel bistrot, ils ont mis des télés, il y a la famille, comment, etc. Qu'on essaye de s'imaginer, puis d'avoir une communion comme ça au-delà des frontières. Mais sinon, c'est un bonheur tout à fait particulier. Moi, je l'ai comparé à la naissance de mes filles. Alors, c'est le cœur qui grossit. On a vraiment l'impression qu'il va pousser les parois de la cage thoracique tellement il prend du volume, quoi. Mais parce que bon, il y en a quand même beaucoup plus qui sont pères de famille que champions olympiques, donc c'est plus facilement imagé dans ce sens-là.
Vous êtes le premier Européen champion olympique du 110 mètres haies, ça restera toujours. Est-ce que vous sentez que vous avez réussi le pari de votre vie, c'est-à-dire la reconnaissance, enfin cette reconnaissance ?
J'ai une vraie satisfaction, une vraie fierté, qui, je vous dis, c'est je suis fier pour les miens, je suis fier pour moi, je suis très content pour celles et ceux qui m'ont fait confiance, et Dieu sait qu'à l'époque, ils n'étaient plus tellement nombreux, parce que, et je peux les comprendre aussi, je les pardonne tout à fait, parce que c'est vrai que j'avais une saison 76 tellement dramatique, et une demi-finale, nulle, donc je peux parfaitement comprendre, et je les excuse tout à fait volontiers. Mais ça va pas au-delà, parce que j'avais 26 ans et je sais très bien que la vie s'arrête pas à 26 ans. Mais j'ai voulu juste suffisamment de recul pour apprécier les moments dans leur plénitude.
Merci à Guy Dru, merci aussi à Christian Denis Le Sève et à Florence D'Artois de l'Institut National de l'Audiovisuel.
C'était Guy Dru à Montréal, Jeux Olympiques de 1976, second numéro de La Légende du Sport, proposé par Joël Spindel et Denis Soula. Première diffusion sur Radio Bleu le 11 juin 2000.